Alors, je voulais vous parler d'une pièce de théâtre que je suis allée voir à Gentilly au mois de mars, qui parle d'un sujet très délicat, puisque le thème, c'est la violence intrafamiliale, la maltraitance des enfants. C'est un sujet qui me touche, moi, très fort, parce que, bah, déjà, je suis une femme, je suis une maman, donc forcément, ça m'a touchée. Et j'ai eu envie de rencontrer son auteur, Rose-Marie Doros. Bonjour Rosemary.
Bonjour.
Tu es auteure de théâtre. En mars, tu as présenté à Gentilly la pièce Maria et l'autre, que tu signes en tant qu'autrice, metteur en scène et comédienne. Ta pièce est présentée comme s'inspirant d'une histoire familiale, la tienne. Est-ce que tu peux nous dire quelle en est la part d'autobiographie ?
Elle ne s'inspire pas d'une histoire familiale, elle est totalement autobiographique. L'idée, c'était de faire le parcours familial au départ de ma mère, puisque j'ai écrit tout d'abord le monologue de Maria, une femme très indépendante pour son époque, qui est partie très tôt, etc. C'était vraiment, pour moi, l'idée de me rapprocher d'elle et d'essayer de comprendre comment cette femme, qui était émancipée pour son époque, puisqu'elle est née en 33, comment elle s'est retrouvée mariée à ce monstre qui est devenu un père absolument monstrueux. Est venu s'ajouter à ça le monologue du père, de l'autre, donc du monstre. Et pendant tout un temps, il y a eu des lectures de fête, mais juste avec ces deux personnages. Il était important pour moi d'avoir l'écho de l'autre, parce que l'autre, il n'est pas né monstrueux. Après, c'est ma perception des choses. Si mon frère ou ma sœur avait écrit cette pièce, il l'aurait sûrement vue sous un autre angle. C'est ma vérité d'enfant.
Et qu'est-ce qui a motivé ton envie de partager cette histoire avec le public ?
Au départ, ça a été plutôt deux nouvelles. Et puis, quand je l'ai fait lire à des amis, comédiens, metteurs en scène, ils m'ont dit « il faut que tu en parles parce que ce sont des sujets complètement universels et que là, tu en parles d'une façon très claire, c'est très direct, c'est très cru. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du conte, de la poésie, qui fait que les choses passent et qu'on peut entendre les choses, même les plus abominables. » Ensuite, j'ai écrit les monologues des enfants. Et ensuite, je n'ai fait que faire un puzzle à partir de ces 5 monologues.
Est-ce que dès le départ, tu l'as imaginé comme une pièce de théâtre ou plutôt comme des monologues ?
Ah non, j'ai imaginé vraiment comme des monologues. J'ai fait des lectures publiques, les gens repartaient totalement bouleversés. Ensuite, j'ai travaillé la mise en scène et on a travaillé sur le son, etc. pour pouvoir monter un vrai projet théâtral.
Les personnages ne s'expriment que par monologue et ils s'adressent au public, ils interagissent jamais entre eux, comme plusieurs solitudes qui cohabitent sans jamais se rencontrer. C'est quoi l'objectif qui a guidé ce choix de mise en scène ?
En fait, la chose s'est faite très simplement, c'est-à-dire que moi, dans mon rapport au théâtre, je suis dans un rapport frontal, je m'adresse au public. Donc, c'était très simple, il y avait besoin de rien d'autre. C'est comme si ces personnages, à un moment donné, ils avaient besoin de témoigner de quelque chose. Oui. Il y a besoin de rien d'autre.
Tu fais démarrer le récit de la mère à une période en fait qui est bien antérieure à celle de la rencontre avec l'autre, le monstre, comme tu l'appelles. Pourquoi c'était intéressant pour toi de retracer tout son parcours à Maria, à la mère, depuis la fin de son adolescence ?
Bah, parce que justement, elle a été, je trouve, extrêmement vaillante de vouloir partir. Parce que moi, je suis née dans le même village que ma mère, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et donc, elle part de là, elle dit, mais moi, il est hors de question que je reste ici et que je m'encroûte, qu'on me marie. Moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être dans une ville, j'ai envie de... Et donc, elle part alors que c'est quelqu'un qui a très peur au départ. Donc, elle prend ce courage-là et elle s'en va et elle devient une femme émancipée. Et tout d'un coup, parce qu'elle a eu une peine de cœur qui l'a complètement anéantie, tout d'un coup, elle se dit, voilà, tout est fini pour moi, je vais finir vieille fille, c'est pas grave. Elle rencontre cet homme qui va devenir son mari, et là, elle dit oui, mais vraiment par dépit. Et là, c'est le début de la fin, en fait. Même quand elle se rend compte que sa vie va être un enfer, elle n'arrive pas à s'en défaire. Elle n'arrive pas.
Et cette emprise, en fait, la laisse finalement mettre ses enfants en danger.
Totalement, ouais. Totalement, oui.
Et donc, c'est une incompréhension pour le personnage qui interprète la fille. Et d'ailleurs, la fille interpelle la mère à plusieurs reprises pendant la pièce, justement là-dessus. Et moi, j'ai envie de te demander, si toi, t'étais l'avocate de la mère, comment tu pourrais la défendre ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà qu'elle vient d'une famille, donc, dont c'est l'Espagne profonde, extrêmement catholique. Donc, le divorce n'était absolument pas possible. Et puis, que toute sa famille savait absolument qu'elle était victime de violences conjugales. Bon, que nous aussi, on était victimes de violences. Du reste, non, mais en tout cas, de violences, oui. Que mon père était quelqu'un d'extrêmement violent et brutal. Elle arrivait avec un œil au beurre noir ou des bleus sur les bras, mais tout le monde faisait comme si c'était normal. Et surtout, c'était honteux. On est à un endroit où il faut toujours faire bonne figure, bien se présenter. Mon père était tellement violent que de toute façon, on lui disait, moi, si tu t'en vas, je vous retrouve avec les enfants, je vous tue. Il était suffisamment terrorisant pour que de toute façon... Elle ne pouvait pas faire autrement que de le croire. Ça, c'était évident. Donc, elle ne pouvait pas, en fait.
Et cette pièce, alors du coup, c'est aussi une façon de t'adresser à ta mère, par-delà tous ces événements.
Au départ, complètement.
Ouais.
Moi, je me suis sentie complètement exclue de cette famille parce que j'étais celle qui ressemblait le plus à mon père. Et ma sœur ressemble terriblement à ma mère. Elle me disait, mais toi, tu es comme ton père. Alors, c'était monstrueux pour moi. Enfin, je veux dire, qu'on dise que je ressemble à mon père, c'était juste monstrueux, quoi. Et je me suis sentie pas aimée comme il fallait. Je voulais qu'elle me reconnaisse d'une certaine façon. Bon, elle a pas lu le texte, hein. Elle est morte avant. C'était ça, et puis c'était aussi, je pense, pour moi, de faire une sorte de nettoyage familial. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut arrêter de se taire, quoi. Voilà, il faut arrêter de se taire.
Bien que joués par des adultes, les personnages des enfants nous racontent leur vécu en tant qu'enfants. Est-ce que c'était important pour toi de redonner la parole aux enfants, mais plus particulièrement à la petite fille que tu étais ?
Oui, c'était extrêmement important. C'est surtout ce qui a été tu et caché, comme pour le fils d'ailleurs, qui a vécu dans un univers complètement fermé, qui n'a jamais pu s'exprimer, qui n'a jamais rien dit et qui n'a fait que se taire. Parce qu'en fait, c'était ça l'idée de ma mère dans ce que je lui reproche, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle était présente, c'était pour nous faire taire et pour pas faire surgir le monstre chez mon père. Ce qui était intéressant pour moi, c'est de dire mon passé dans ce village avec ma grand-mère et l'amour que j'ai reçu. Et quand je suis arrivée à Paris et que j'ai découvert mes parents et le monstre qui a abusé de moi.
Tu t'es mis en scène en fait dans le personnage de la fille, dans ton personnage en fait.
Elle s'appelle la grande, le fils et la petite.
Et tu penses que tu es la seule à pouvoir interpréter ce rôle-là de la grande ?
Ah non, je crois pas, non, je crois pas. Je pense que si un jour cette pièce est jouée par d'autres, voilà, il y aura d'autres versions.
Qu'est-ce qui a guidé le choix des comédiens qui jouent avec toi ?
On est une compagnie qui s'appelle la compagnie Les Géotrupes. Sur les 5 comédiens, je travaille avec 4 d'entre eux depuis très longtemps, notamment Gérard Duménil qui joue le père, Pauline Dubreuil qui joue la petite et Laurent Pigeonnat qui joue le fils. Et donc, d'abord, on se connaît très très bien. Je sais comment ils travaillent, je sais comment les diriger, je sais qu'ils vont vite et je sais qu'ils me font confiance. Enfin, on se fait confiance mutuellement. Au départ, il n'y avait pas de budget, donc je leur ai donné le texte. Je leur ai dit, voilà, est-ce que le texte vous plaît ? Tous étaient extrêmement heureux et émus. Ils m'ont dit, mais nous, on veut défendre ce texte.
Tu penses que tu aurais pu interpréter le personnage de la mère ?
Ah, mais je le voulais absolument pas. Mais c'est drôle parce que ça, c'est tellement ancré en moi le fait de pas du tout lui ressembler que c'est quasi impossible. N'importe quel personnage de théâtre, je vois même pas le problème. Mais là, c'était quasi impossible pour moi. Ça, c'est impossible. Après, ma mère, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup filmé sur la fin de sa vie. Mes enfants la connaissent pas et je voulais qu'ils aient des traces d'elle. Donc, je l'ai beaucoup fait parler. Et donc, j'ai gardé l'espèce de débit qu'elle avait. Mais je me voyais pas du tout... C'est drôle parce que c'est comme si je me sentais pas de sa famille.
Est-ce que cette souffrance ou ce que tu cherches à évacuer, est-ce que tu arrives à l'évacuer justement ?
Bah clairement, en tout cas, entre les premières lectures et là, les représentations, ça n'a vraiment plus rien à voir. Tout le travail que j'ai fait avec l'aide de psychologues, etc., tout le travail, ça a été de se réconcilier et de pas de se construire contre ça, mais avec ça. Là, quand je le joue, finalement, j'arrive, là, maintenant, à dire les mots en étant émue, mais au bon endroit, et pas submergée, alors que j'étais submergée.
Et tu crois que le fait d'offrir justement cette histoire à un public, ça représente un moyen pour toi de te débarrasser d'un fardeau ?
Je ne me débarrasse pas, je vis avec, mais paisiblement. Et l'important aussi, je crois, c'est pour ça que j'ai demandé à chaque fois que c'était possible qu'il y ait une rencontre avec le public, je pense que c'est important de voir que je vais bien. Ça, c'est extrêmement important. Et il y en a qui sont venus voir en me disant « mais on vous remercie parce que vous allez bien et qu'on se dit qu'après ça, on ne peut pas s'en sortir ». Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir, du coup de la résilience, qui est, je pense, important. Je pense que ça ouvre la parole, surtout.
Et alors, la musique ?
Ah.
La musique, c'est une composition originale, oui, qui accompagne toute la pièce. Elle tient une place très importante, hein, dans la pièce.
Alors, la musique, moi, elle m'a accompagnée toute ma vie. Avant d'écrire des textes, j'ai écrit des chansons. Il y a une chanson là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle « Peur du noir », où déjà il y a le petit refrain du « Où y es-tu, que fais-tu » qui revient dans la pièce. Et la musique, pour moi, c'est ce qui nous permet en plus, à un moment donné, de reprendre la respiration. Ça accompagne. C'est un sixième acteur. Je voulais que chaque personnage ait sa musique, comme dans « Pierre et le loup ». J'ai fait appel à deux compositrices, Sylvie Magan, qui est accordéoniste, et Muriel Gastebois, qui est percussionniste et vibraphoniste. Je leur ai demandé de travailler sur des thèmes différents pour chaque personnage. Et puis, voilà, elles m'ont proposé des choses. On a arrêté certaines choses. Il y a une seule chanson qui est chantée dans le spectacle et qui est vraiment l'endroit où la vie de Maria bascule.
Et aujourd'hui, en fait, à quel point les événements que tu racontes t'atteignent encore ?
Les événements que j'ai vécus m'ont atteint, mais ils ne sont plus d'actualité. Ce qui me révolte encore et ce qui m'atteint, c'est en effet le nombre de cas d'inceste énormes, les violences conjugales, les femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur mari, et que, en fait, rien n'est fait concrètement pour que les choses s'améliorent. En Espagne, par exemple, ils ont mis en place tout un protocole, c'est-à-dire qu'ils ont dédié des juges, des policiers, voilà, un service spécial qui répond directement aux femmes qui appellent, et ils ont réussi à diviser le nombre de féminicides par deux. En France, ça continue et c'est terrible. Et les cas d'inceste, dans les cas avérés, il y a un enfant sur 10 qui est victime d'inceste en France. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et donc, je trouve ça terrible.
Quels enseignements positifs tu tires de toute cette aventure ?
La libération de la parole. Je ne savais pas du tout comment ça allait être reçu. Je n'avais eu que des retours parce que j'ai envoyé les textes à des amis qui les ont lus et qui m'ont fait des retours par écrit. Après, les faire entendre, c'était une autre aventure. C'est très compliqué d'offrir son histoire. Est-ce que j'offre pas quelque chose ? Est-ce que je ne les mets pas à un endroit où ils sont voyeurs ? Est-ce que c'est pas moi qui suis exhibitionniste ? Enfin, on se pose 10 milliards de questions à savoir comment ça va être reçu. Et puis, en fait, non, parce que les gens sont extrêmement bienveillants. Et moi, je ne l'ai pas fait du tout à cet endroit-là, quoi. Et je pense que la poésie, elle a à voir avec cet endroit où c'est reçu de cette façon bienveillante. Et non pas exhibitionniste et pour le public voyeuriste.
Et alors maintenant, ta pièce, elle va être jouée encore où ?
Bah, là, elle est jouée à Avignon cet été.
Toi, tu voudrais qu'elle tourne ?
Oui. Oui. Je pense qu'elle a sa fonction, en fait. Elle a une vraie fonction. J'ai une sorte de mission familiale et je suis allée aussi au bout de cette mission.
Merci beaucoup, Rosemary.
Merci, Laurie. Merci.